RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Laurent Ferry.
Bonjour Mathieu.
Comment allez-vous Laurent ?
Eh bien écoutez, super bien. Pour une fois qu'on a un peu de soleil, on est ici à la Moselle, à l'Institut Vitivinicole, avec une vue imprenable sur les coteaux. Et on se sent bien déjà prêt à déguster quelques bons produits du terroir.
C'est la belle saison, hein ?
Ben, pour ressortir et recommencer à déguster, oui, c'est parfait.
Eh ben, on va en profiter puisque vous êtes Laurent Ferry, donc le directeur de Golemio, ce fameux guide ici à Luxembourg.
Hein. Oui, c'est exact. Un guide qu'on a sorti du guide Belux en 2015 pour en faire une édition exclusivement luxembourgeoise.
Alors, c'est un guide en général qu'on ne présente plus, mais celui-là, on va le représenter. Pourquoi ? Parce que chaque année, il s'enrichit. Il est désormais aussi dédié à l'activité viticole ici au Luxembourg. C'est d'ailleurs un petit peu l'objet de notre rencontre. Mais ce qui serait sympa, c'est déjà d'expliquer ce qu'est Golemio, puisque c'est un fonctionnement un petit peu atypique.
Alors, Golemio existe depuis la fin des années 60 grâce à deux critiques gastronomiques parisiens. Golemio, actuellement à l'international, se décline en franchise. La franchise ici, c'est une franchise Benelux et nous, on a une société purement luxembourgeoise pour s'en occuper. Notre objectif à nous, c'est de guider les gastronomes vers les meilleurs endroits, les meilleurs produits. Hein, ça va aussi bien du restaurant que de l'adresse branchée au meilleur bar, en passant par les chocolatiers ou les stars de la Moselle, comme on en parle ici.
Alors les guides, c'est toujours quelque chose qui fascine. On se dit qui sont ces gens, est-ce qu'ils sont à visage couvert, découvert? Comment vous fonctionnez? Combien vous êtes à faire tourner ce guide et ce qui donne lieu au final à ce précieux livre qui sort chaque année?
Oui, alors on aime à dire que chez Golemio, on est nombreux. Et pour, à titre d'exemple, au Luxembourg, nous sommes 5. Bon, malheureusement, mon visage est connu, mais heureusement, mes 4 collègues, personne ne connaît leur identité, ce qui nous permet de passer inaperçu. Donc, ils réservent leur restaurant sous un faux nom ou par le biais d'un ami qui réserve à son nom. Ils s'y présentent, ils prennent leur repas, ils payent l'addition, ils s'en vont sans faire de remarques, comme tout autre client.
Est-ce que vraiment on arrive à passer incognito dans ce cadre ?
Ah, en tout cas, personne ne sait qui sont mes collègues, ça je peux vous l'assurer. Beaucoup de restaurateurs me disent « mais on ne vous a pas vu cette année ». Mais je dis « oui, mais c'est normal, super. Si on ne nous a pas vu, c'est super ». Alors, quand moi j'y vais, c'est un petit peu plus compliqué. Généralement, je repasse après mes collègues. J'adopte le même principe et au lieu, bon, je ne me présente pas évidemment, c'est réservé toujours sous un faux nom ou par le biais d'un ami et c'est plutôt de l'improviste plutôt que de l'incognito parce qu'une fois que je suis là, évidemment, ils me reconnaissent. Mais ce n'est pas tellement mon avis qui compte, c'est l'avis de l'équipe qui va compter à la fin. Et à titre d'exemple, et c'est facilement vérifiable, l'année dernière, pour rentrer 84 restaurants dans le guide, on a exécuté plus de 187 inspections. Donc certains ont été inspectés une seule fois et d'autres ont été inspectés jusqu'à 5 ou 6 fois. Un chef de l'année, par exemple, a été inspecté au moins 5 ou 6 fois.
Qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau ? Vous contrôlez des choses bien particulières ? Vous avez un cahier des charges vraiment complet ? Ou alors, au contraire, c'est une action qui se fait au feeling ? Je vous pose cette question parce que vous êtes vous-même issu du monde gastronomique.
Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai commencé dans la gastronomie en 85. Ça fait déjà un certain temps. Je suis passé par d'excellentes maisons. J'ai atterri à Luxembourg en 2001 comme le dernier gérant des casinos de l'Arbède, malheureusement, avec une cave magnifique, hein. C'était ce fameux bâtiment qui appartient aujourd'hui à la Spuerkes. Il y avait une cave exceptionnelle. Malheureusement, la crise de 2008 et Monsieur Mittal ont décidé de mettre fin à tout ça, donc il a fallu faire autre chose. Mais c'est un métier dont on sort par la porte et on y revient toujours par la fenêtre, d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'y suis revenu grâce à Golemio, lors d'une rencontre avec le directeur de Golemio. Je lui avais fait la remarque, je lui ai dit, mais c'est quand même incroyable que ni vous, ni vos concurrents, vous ne fassiez jamais rien à Luxembourg, il faut toujours aller à Bruxelles, à Anvers. Ils m'ont dit, mais on ne connaît personne ici. Je dis, voilà, je suis là. Et on s'est revus 2 mois après, et c'était en janvier 2015, et en octobre 2015, on sortait le Golemio 2016.
Et donc, finalement, vous, quand vous arrivez au restaurant, c'est toujours la même, moi j'allais dire la même rengaine, c'est toujours le même système.
Alors, le système, à vous, personnellement, je vais pouvoir vous le montrer, mais je ne vais pas pouvoir l'expliquer, parce qu'il y a quand même les secrets de...
Quelques secrets.
Quelques secrets, je n'ai pas envie que les restaurateurs sachent exactement tout ce qu'on regarde.
Bien entendu.
Depuis plusieurs années, nous avons une certaine transparence vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire qu'à partir de la sortie du guide en octobre jusqu'en décembre, ils sont libres de me contacter et de me demander des comptes. Et donc, c'est avec plaisir que je me rends chez eux avec les rapports d'inspection pour leur montrer par le détail ce que nos inspecteurs, moi-même, avons fait comme remarques positives ou négatives sur leur cuisine. Ça leur permet d'avancer. Nous, on n'est pas là pour casser du restaurateur. Hein. On est là justement plutôt pour guider nos lecteurs vers les meilleurs restaurants. Si eux, après, ça leur permet d'avancer, de tenir compte de nos remarques, Et de se dire, tiens, ils ont peut-être raison, on va peut-être modifier ceci ou cela, et qu'après ça les fait avancer, c'est parfait, nous on est heureux. Mais on n'est pas là pour retirer des points à tout prix ou ajouter des points à tout prix. Quand on retire des points, c'est toujours le cœur lourd qu'on le fait, parce qu'on sait que derrière, il y a des passionnés, il y a une entreprise, il y a des familles, il y a des gens qui vivent. Donc on n'est pas là pour faire de la destruction, on est là vraiment bienveillant mais juste.
Alors Laurent Ferry, lorsqu'on s'est contacté pour faire cette interview, je vous ai promis qu'il n'y aurait pas de questions pièges. Je maintiens cette promesse. Par contre, je vais vous poser une question très simple. Pour vous, c'est quoi un bon restaurant ?
J'ai toujours tendance à dire quand c'est bon, c'est bon. La gastronomie, c'est quoi ? Eh bien, à l'instar de la frite en Belgique, il y en a des bonnes et des mauvaises, mais il y en a des excellentes. Ici, au Luxembourg, moi, si je vais dans un restaurant qu'on me sert une Grumperückischelsch fabuleuse avec un jout mat garbonen qui est super bien fait, pour moi, c'est déjà de la gastronomie réussie. Ça a déjà sa place dans le guide. Ça mérite qu'on en parle. Si on me sert après un riz de veau et un foie gras très mal exécuté, ça ne mérite pas qu'on en parle.
Alors mettons, moi j'ai peut-être pas eu beaucoup de chance, mais il m'arrivait de très bien manger et d'avoir un service déplorable. Comment est-ce que vous réagissez, vous, en tant que guide ? Qu'est-ce qui est le plus important ?
Eh bien, ça fait partie d'un tout. Un super repas avec un très mauvais service, on va passer un mauvais moment. Faut bien se le dire, faut être honnête. Alors qu'un repas moyen avec un service exceptionnel, on va quand même passer un bon moment. Donc le service, pour moi, a toute son importance. Si le restaurateur manque d'énergie dans son accueil, si le restaurateur n'a pas envie de vous recevoir et qu'on sent qu'on est le produit et pas le client, pour nous, c'est pas intéressant. Ça ne mérite pas d'être dans le guide.
Est-ce que vous saluez aujourd'hui en tant que guide l'inventivité, la créativité ? Vous êtes plutôt finalement visionnaire, conservateur ou tout simplement il faut que ce soit bon, point la ligne ?
Notre ADN chez Goemio, ça a toujours été de découvrir les talents. Donc ceci dit, au travers de nos nombreux prix, comme le prix Restaurant de Terroir, on va saluer plutôt un restaurateur qui va axer toute sa production et toute sa créativité à mettre en valeur des produits locaux. Et ça, on est assez pointu là-dessus. Les fraises d'hiver, ça n'existe pas. Les framboises de Noël, ça n'existe pas. Le restaurant qui dit produire des mets avec des produits du terroir et qui vous sert de la mangue au dessert, c'est pas cohérent. Donc on regarde quand même à la cohérence de tout. Maintenant, on est aussi très attiré par la haute gastronomie ou par les nouveautés ou par les jeunes chefs. Chaque jeune chef qui veut développer une gastronomie plus novatrice, on est aussi à l'écoute de ça. Donc je vais dire, par rapport à d'autres, on est un petit peu plus large. On va aussi bien recommander un restaurant qui rentre dans notre guide à 12, c'est-à-dire qui fait partie du 8% des meilleurs restaurants du pays. Ça veut dire qu'on va bien y manger. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un repas comme dans un 18 ou un 19. Mais si on veut aller dans un 18 ou un 19, ça sera plus exceptionnel. Et on attend quand même quelque chose en ensemble aussi. Mais ça peut être aussi à la bonne franquette. Dans nos adresses hip, qui sont les adresses un peu branchées, où on va manger un super bao, où on va manger comme chez notre hip of the year de cette année, on va manger un ramen exceptionnel. Donc ça fait aussi partie de la gastronomie.
On ressent quand même à un moment donné que la critique n'est pas seulement technique, on est quand même sur un feeling. Lorsque vous entrez dans un restaurant qui est réputé comme étant une bonne table, voire une excellente table, et que vous êtes déçu, est-ce que vous donnez des cartes joker? Je veux dire par là, est-ce que vous faites un tour un mois après? Comment vous fonctionnez?
Alors c'est sûr que... Si on a un restaurant, imaginons, qui est coté à 14 et que c'est un chef propriétaire qui est là depuis 10 ans, 5 ans, un inspecteur y va, le rapport arrive, c'est 14. Voilà, on ne va pas y retourner 10 fois, on ne va pas vous raconter des histoires. Hein. C'est bon, c'est bon. On a un restaurant dans lequel on va et puis c'était normalement 14, le rapport arrive à 13. Ça allume tous les voyants en rouge chez nous, ou même à 15. Hein, si c'est plus ou en moins, hein, on n'est pas. S'il y a une différence ou une divergence par rapport à la cote initiale, à ce moment-là, il y a un deuxième et un troisième inspecteur qui vont devoir y repasser avant la fin de l'année.
Laurent Ferry, je vais arrêter de vous cuisiner sans mauvais jeu de mots. Je vais vous demander, avant qu'on aborde le vin, puisqu'on est là pour ça également, vos coups de cœur, hein, tout simplement, de bonnes tables. J'ai eu l'occasion, moi, de rencontrer Louis Linster, qui a été mis à l'honneur hein, dans le cadre du 150e épisode d'un autre podcast, hein, Good Appetit. On a eu l'occasion d'échanger ensemble sur une recette qui lui est chère. Quels sont vos autres coups de cœur de l'année? Et si, pourquoi pas, vous souhaitez revenir aussi sur ce fameux titre, cette belle récompense?
Mais je trouve que c'était une récompense exceptionnelle, parce que d'une part, ça fait quand même plusieurs années qu'on suivait le chef Louis Linster. On avait senti qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait là-bas, dans cette adresse qui était pourtant emblématique et qui existe depuis longtemps. Et puis ce jeune chef est arrivé, a amené de la modernité. On s'est dit, il se passe quelque chose, il faut le suivre. Bon, c'était un suivi de longue haleine pendant plusieurs années, avec au moins 3 inspections par an. D'ailleurs, en 2021, il avait été jeune chef de l'année déjà. Et ici, un chef de l'année aussi jeune, aussi créatif. Pour nous, c'était réjouissant de voir qu'après des René Mathieu, qui est... le summum de la cuisine végétale, et je dis bien végétale, pas végétarienne, hein, végétale au niveau mondial, après un Cyril Mollard qui a su hausser la gastronomie à un niveau jamais vu au Grand-Duché, après un Roberto Fani qui a commencé à 14 il y a à peine 5 ou 6 ans et qui a déjà été 2 fois chef de l'année et qui ont amené la gastronomie à des niveaux si élevés, on se dit voilà enfin de la jeunesse qui arrive, et de la jeunesse à un sacré niveau. Ça, il faut le dire. Et là, on était vraiment réjouis. Maintenant, tous les autres coups de cœur sont dans le guide. Hein. On peut le consulter sur notre application, qui est gratuite d'ailleurs, hein, et qui permet d'avoir accès à tous nos commentaires.
Alors, le numérique, c'est bien, mais il y a le papier aussi hein, qui subsiste. On le trouve où, ce guide papier luxembourgeois?
Alors, le guide papier, il est distribué dans toutes les bonnes librairies au Grand-Duché. Dès la sortie du guide, ça partira à partir de la mi-octobre. La prochaine édition sera disponible. Bon, maintenant, je pense qu'il est épuisé, puisqu'on avait édité 8500 exemplaires et je n'en ai plus que 23, je crois, à la maison. Donc, c'est un guide qui a un sacré succès, parce qu'il a un format qui est assez léger, qui peut se glisser dans une poche facilement, qui peut traîner sur une table, sur un bureau. Et je ne suis pas peu fier que notre travail soit reconnu par nos lecteurs, par les restaurateurs aussi, c'est important, et que notre crédibilité soit assise sur une certaine légitimité. Légitimité d'abord de nos connaissances, de nos compétences, parce que nos rapports, je vous les montrerai tout à l'heure, mais ils sont hyper détaillés, c'est quand même 8 pages, ça prend quand même 2 heures de faire un rapport, il y a énormément de détails à noter, il ne suffit pas de sortir du restaurant et de lever le pouce en l'air et se dire Allez, à peu près ça. Non. C'est vraiment fouillé, détaillé. Et chaque petite cote qui est notée dedans pour chaque détail se retrouve après dans une cote globale qui détermine la cote de l'inspection.
Ces restaurateurs font évidemment l'actualité du monde gastronomique à Luxembourg. Vous aviez à cœur également de mettre un élément qui est incontournable, qui est le complément idéal de la gastronomie, c'est le vin. Ça fait combien de temps que le vin clairement apparaît dans le cadre de ce guide Golimio Luxembourg ?
Alors ça sera la quatrième édition, mais le vin c'est une histoire, c'est l'histoire de ma vie aussi. En plus de la gastronomie, moi j'ai souvenir de ma maman, puisqu'on était frontaliers ici, qui cuisinait avec le vin de la Moselle, et ça sentait tellement bon quand elle faisait une bonne choucroute ou un pot-au-feu, ou quand elle assaisonnait ses plats avec le vin de la Moselle, et en plus on avait le droit de goûter. Donc ça c'est déjà un souvenir d'enfance. Dans ma belgitude natale, un souvenir aussi, c'est les chansons de Brel. Brel, dans sa chanson Jeff, lui dit « On ira manger des moules et puis des frites et puis des moules, et du vin de Moselle ». Le vin de Moselle a toujours fait partie de la gastronomie populaire en Belgique, en tout cas en Wallonie, en tout cas ça c'est certain. Ensuite, dans mes années de gastronomie et haute gastronomie, je me souviens étant maître d'hôtel dans les années 90, du côté de Palisole, dans une maison très très réputée, où on servait le vin de chez Benz. Et puis mon arrivée à Luxembourg, quand j'ai repris les restaurants de l'Arbed, avec cette cave fabuleuse, et avec l'objectif qui m'avait été confié de tout mettre en œuvre au niveau de la gastronomie pour séduire les futurs partenaires français qui étaient Usinor et espagnols à Serralia. Mais on avait toujours décidé, même en sortant des grands vins de Bordeaux rouges pour le plat, de toujours servir un vin de la Moselle avec les entrées. Et pendant les 9 années où j'y étais, on a servi toujours du vin blanc de la Moselle avec les entrées. Donc le vin blanc de la Moselle est resté au cœur de nos préoccupations, surtout que durant ces années, ces 20 années, plus de 20 ans maintenant que je suis au Luxembourg, on a vu une évolution incroyable de la qualité des vins. Il y a eu un investissement dans la qualité et on est maintenant à des niveaux qualitatifs que quand nous organisons notre grande dégustation annuelle ici à l'aveugle, avec des sommeliers qui viennent d'un petit peu partout, certains sommeliers qui viennent de Belgique et qui ne connaissent pas toujours très bien sont surpris, agréablement surpris de se retrouver face à des vins d'une telle qualité. Maintenant, ce sera la quatrième année qu'on va sortir les Stars de la Moselle, et c'est vrai que ça a un sacré succès auprès de nos lecteurs, mais aussi auprès des restaurateurs. Dernièrement, j'ai eu le contact avec un des lauréats, si je peux le citer,
oui,
Jeff Sonsbrook,
voilà.
Pour son Pinot Noir, qui est le vin rouge de l'année. Et je lui ai demandé s'il avait encore quelques bouteilles que je pourrais lui acheter. Il m'a dit « Je suis désolé, mais en une semaine après la sortie du guide, tout était vendu. » Alors, bon, c'était quand même incroyable. Mais enfin, c'est le but quand même. Parce qu'il m'a confié que la plupart des ventes avaient été faites à des restaurateurs. Et notre guide vin, les Stars de la Moselle, il reprend les 5 vins de l'année plus 20 vins fins de la Moselle, 80 par catégorie. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire un annuaire des vins ? Parce que, comme le reste de notre guide, il est destiné à guider les consommateurs. Et on sait très bien que dans un pays comme le Luxembourg, tellement multiculturel, beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment les vins. Ils ont besoin d'être guidés là-dessus. Et si on les enterre sous trop d'informations, ça ne va servir personne. Alors qu'ici, en allant leur montrer la crème de la crème, eux peuvent retrouver ces vins dans les meilleures tables du pays, celles du Golimio, et après les consommer au restaurant, voire même les acheter en boutique s'ils en ont l'occasion.
Alors Laurent Ferry, vous me parlez de crème, moi je vais vous parler de crémant.
Mm-hmm.
Pourquoi ? Parce que le crémant, c'est vraiment c'est l'étoile, hein, ici au Luxembourg, en tout cas en matière de vin. Vous avez décidé de récompenser le domaine Clos des Rochers, qui est un domaine qui est bien connu à Grevenmacher. Ça a été compliqué quand même de sélectionner des créments. Quasiment tous les vignerons du Luxembourg proposent des créments avec cette liberté de créativité, puisqu'on rappelons-le, faire du crément ne comporte pas les mêmes contraintes que le champagne, puisque on peut faire appel à justement à beaucoup d'imagination en créant des assemblages particuliers. Comment est-ce qu'à un moment donné, on est capable de dire, bah voilà, le meilleur crément de l'année, c'est celui-ci?
Alors, la première étape, c'est le contact avec les viticulteurs, avec une fiche technique bien détaillée, une fiche technique de notre cru, et ils nous renvoient leurs propositions de dégustation pour les stars de la Moselle. C'est eux qui décident ce qu'ils veulent nous faire goûter.
C'est le viticulteur qui postule, d'accord.
Ils décident ce qu'ils veulent nous faire goûter, et l'avantage d'être ici à l'IVV, c'est que le viticulteur doit noter son numéro AOP, c'est-à-dire il ne peut pas nous faire goûter une bouteille de compétition. Il doit nous faire goûter une bouteille du cru qui est servie partout. Comme ça, l'IVV ici peut valider et dire, en regardant la bouteille qui a été livrée, c'est bien ce numéro AOP, c'est bien ce numéro de lot, donc c'est bien le lot normal qu'on va déguster.
Pas d'embrouille possible.
Pas d'embrouille possible. Ensuite, toujours sous contrôle de l'IVV, donc nous, on va inviter des sommeliers. Des sommeliers, il y en aura à peu près une vingtaine qui seront répartis sur les deux salles, le laboratoire que je vous ai montré tout à l'heure et la salle ici au soleil. Et ils vont être chacun dans leur coin. C'est-à-dire pas question de discuter les uns avec l'autre. Chacun donne son avis sur sa propre échelle de grandeur. C'est-à-dire quelqu'un qui commence avec le premier vin à 12 et quelqu'un qui commence avec le même vin à 15, on s'en fiche. À la fin, il y a une moyenne. Leur étalon, c'est le leur. Et à la fin, il y a une moyenne. Et à la fin, la moyenne, elle ressort, à la fin de la première dégustation de tous ces vins, il va ressortir, je crois que pour les créments, on est à peu près à 60 ou 70 créments différents. À la fin, il en ressort les trois meilleurs. Il ressort aussi trois meilleurs blancs, les trois meilleurs rouges, les trois meilleurs vins particuliers et les trois meilleurs vins moelleux. Là, on leur laisse une petite pause. Et puis ensuite, tout le monde, parce que ici pour les créments, il y a juste une partie, un tiers des dégustateurs qui vont goûter les crus au départ. Après, c'est tout le monde qui va goûter. Et sur les trois, ben, il y a une note. C'est mathématique. Il y a une note qui va dire c'est celui-là le meilleur.
C'est le premier qui l'emporte.
C'est le premier qui l'emporte. Et on se fait contrôler tout au long de la journée par l'Institut Vitivinicole. Et voilà, c'est tout. C'est simplement mathématique. C'est 20 sommeliers qui donnent chacun leur cote dans leur coin et c'est le meilleur qui l'emporte.
Vous-même, vous goûtez ces vins ou participez à...
Non, je m'interdis de participer parce que moi je connais les vins, eux ils les dégustent à l'aveugle. Ils dégustent un numéro crément 27, ça sera C27. Il n'y a que nous qui savons ce qu'est le C27, eux ils ne savent pas. Donc c'est pour ça que, bon, ce n'est pas tous les ans le même évidemment. Enfin, il se peut que... Ça pourrait arriver que ça soit deux années de suite le même.
Mais... On a le problème en Formule 1, on peut l'avoir aussi dans le cadre du vin.
Ça peut arriver.
Toujours le même champion.
Ça peut arriver, mais c'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup interpellé cette année, c'était plus au niveau du gagnant, enfin du star de la Moselle, le meilleur vin blanc de la Moselle. Mmh. On avait toujours été habitué dans ce pays à ce que le Riesling soit la star des cépages pour les grands vins blancs de la Moselle. Et là, cette année, c'est un Chardonnay. Alors, évidemment, pas n'importe quel Chardonnay, c'est un Chardonnay de chez Abidur, en fût. On connaît Abidur, on sait que Abi travaille différemment, il fait des vendanges plus tardives, il a d'autres méthodes de vinification, d'élevage. Mais n'empêche, un Chardonnay qui arrive premier au Luxembourg, moi je me suis posé des questions tout de suite sur les réchauffements climatiques. Et je me suis dit, un cépage bourguignon est aujourd'hui, pour cette année, le meilleur vin de la Moselle.
Et finalement, c'est pas si surprenant de retrouver également l'Elysium 2021 de chez Schumacher Knepper, qui était un rouge qui... excellent, qui est élevé en barrique, des parfums qu'on avait encore du mal à déceler il y a une dizaine d'années.
Et surtout au niveau des vins rouges, le vin rouge luxembourgeois ne nous avait pas habitués à autant de qualité. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, on est vraiment monté en gamme. Alors, ça se voit un petit peu au Luxembourg, mais on le voit aussi beaucoup en Belgique, qui est théoriquement le pays de la bière. Mais depuis 20 ans, il y a tellement de domaines viticoles qui sont créés en Belgique qu'on a dû en faire un guide. Avec plus de 180 domaines en Belgique. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un truc incroyable.
Mais non, mais justement, parlez-moi-en, nous sommes sur la route des vins du Luxembourg, la Belgique est justement à côté.
Oui.
Vous pensez que les Belges ont un vrai coup à jouer de ce côté-là? On connaît déjà leurs sommeliers qui sont excellents, mais on connaît un peu moins leur vin du côté luxembourgeois. Comment est-ce que vous percevez cette évolution?
L'évolution est tout à fait positive, et malheureusement elle est due au réchauffement climatique, puisqu'aujourd'hui on bénéficie dans la vallée de la Meuse, en Belgique par exemple, d'un climat de la Champagne, voire peut-être même un petit peu bourguignon aussi. Donc là aussi, surtout des vins blancs évidemment, il y a certains vins rouges assez connus en Belgique, mais dans les vins effervescents, il faut savoir que le Chandéol à l'aveugle est sorti en 2019, si je ne me trompe, est sorti comme le meilleur vin effervescent du monde, avant les champagnes. Donc, tout dépend du sol, du terroir, de l'encépagement, mais ça dépend aussi, c'est comme un grand chef finalement. Vous pouvez donner à 20 chefs les mêmes ingrédients et vont sortir 20 plats différents. Ici, c'est pareil. Vous donnez à 20 vignerons le même cépage, suivant la date de la vendange, suivant l'orientation, suivant la qualité du sol, suivant l'élevage, ils vont sortir 20 vins différents.
On a deux clans de vignerons au Luxembourg, ceux qui mordicus veulent garder les cépages traditionnels, on ne va pas les citer, on les connaît. Et on a cette nouvelle génération de vignerons qui, après un certain nombre d'années, sur des vieilles vignes par exemple, qui tout simplement ne donnent plus forcément, font le choix de planter d'autres types de raisins pour justement correspondre à ce nouveau climat. Je pense par exemple aux frères Dur là, qui ont sorti un fabuleux Tempranillo, hein, qui rappelons-le, est un cépage espagnol. Quelle est votre vision là-dessus? Vous seriez plutôt du genre à défendre ce terroir luxembourgeois en vous cantonnant aux cépages traditionnels, ou vous pensez qu'il faut évoluer aussi du côté de la culture?
Moi, je pense que c'est comme la gastronomie, les deux doivent coexister. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, il y a des jours où moi j'ai envie d'un vrai bon Riesling typique luxembourgeois, et il y a des jours où j'ai envie de quelque chose de plus moderne. Mais les deux doivent pouvoir coexister. La cuisine moléculaire a eu son temps, et à mon avis, pour moi, c'est bien, tant mieux, c'est passé. Maintenant, on est revenu sur une cuisine créative sur base traditionnelle. Il faut que la jeunesse ici fasse ses expériences, pour peu que les raisins soit élevé ici au Grand-Duché, parce qu'il existe certains viticulteurs qui réalisent des cuvées sur base de raisins importés. Ceux-là, on ne les goûte pas.
J'ai une dernière question à vous poser, Laurent Ferry. Il sera temps de nous dire au revoir dans le cadre de ce podcast de la Route des Vins du Luxembourg. J'espère que cette question ne vous paraîtra pas trop irritante, aussi bien les vignerons finalement que les restaurateurs. Comment ces gens doivent réagir? Comment doivent-ils s'adapter au jugement d'un guide? Ça doit les accompagner? Ça doit être couperé? Vous n'avez quand même pas une place qui est forcément facile, vous le savez, les notes que vous attribuez sont parfois lourdes de conséquences, aussi bien de manière positive que négative. Selon vous, comment est-ce qu'on avance lorsqu'on est restaurateur ou vigneron sur ce point?
C'est un petit peu comme tout le monde, il faut avancer avec son temps, il faut pouvoir se remettre parfois en question. Ce que je dis toujours aux restaurateurs, c'est pas parce que vous avez une meilleure note que les dernières qu'il ne faut pas vous poser les questions de savoir pourquoi. Il faut toujours se poser les questions de savoir pourquoi. Et quand on sait pourquoi, après on sait peut-être comment.
En tout cas, c'est sur ces mots qu'on termine sur cette route des vins du Luxembourg. Merci beaucoup Laurent Ferry. Je le rappelle, vous êtes donc directeur de ce Golemio au Luxembourg, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Ça va être un petit peu compliqué pour l'édition 2024. Donc on va se donner rendez-vous pour la 2025.
En octobre, le 14 octobre.
Allez hop, on y est presque. À très bientôt.
Merci à vous.
Merci Laurent.
Au revoir.
La route des vins du Luxembourg.